Les invités de Mademoiselle profitaient aussi de raffinement, de son goût. Elle avait imposé à son salon une règle, une seule. Les cartes en étaient bannies. On n'y était jamais exposé à se ruiner comme chez le roi, qui encourageait le gros jeu. Il ne déplaisait pas à Louis XIV d'être la providence des décavés. C'était encore une façon de tenir sa noblesse. Sa cousine n'entrait pas dans ces sortes de considérations. Elle disait « Je ai à jouer aux cartes !» et ne jouait que s'il lui était impossible de s'en dispenser. Elle ne devait pas aimer à perdre. On remarqua que le Luxembourg avait gagné en gaieté à l'exclusion des jeux d'argent. On riait 100 fois davantage. Raconte l'abbé de Choisy, alors tout jeune et très assidu chez Mademoiselle, où il trouvait nombreuses compagnies de son âge. Les trois filles de la vieille madame, Mademoiselle d'Orléans, d'Alençon et de Valois, y étaient sans cesse. Elles s'échappaient de leur appartement désert pour accourir vers le bruit et le mouvement. Leur vie était trop triste avec madame et ses éternelles vapeurs. Reléguées dans leur chambre, comme à Blois, avec quelques compagnes d'enfance, dont Louise de la Vallière, encore inconnue, les petites princesses redoutaient cette mère presque invisible qui ne leur adressait la parole que pour les gronder. Au moins, chez Mademoiselle, on avait le droit de remuer. La jeunesse y était dans une grande liberté. On y organisait de petits jeux, on faisait des parties de cache-cache et de colin-maillard. Le soir, on dansait.
« Comme j'avais des violons !»
dit Mademoiselle.
« Le bal était bientôt fait dans une chambre éloignée de celle de madame. »
L'abbé de Choisy ajoute un détail gracieux.
Il y avait des violons, mais ordinairement, on les faisait taire pour danser aux chansons.
C'est si joli de danser aux chansons. Tandis que la jeunesse sautait, les grandes personnes avaient aussi leurs petits jeux. Tout cédait cependant au plaisir sans égal de la conversation. Parmi ceux qui lui donnaient son éclat au Luxembourg, on peut citer La Rochefoucauld, Segré, Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Mademoiselle elle-même, qui menait les idées un peu tambour battant, comme elle menait tout, mais aussi avec le même imprévu. La conversation allait être pendant plus d'un siècle, jusqu'à la Révolution, les délices de la France intelligente, et rendre d'incomparables services à la langue, légèrement empêtrée dans les nobles périodes du XVIIe siècle. On s'aperçut tout de suite que le pire défaut pour un causeur est de parler comme un livre. Et le français dut à cette simple remarque de devenir son rival dans tout l'univers pour la vivacité et le naturel. Les habitués du Luxembourg regrettaient seulement que la conversation ne tourna pas plus souvent sur l'amour. Mademoiselle n'y mettait plus la même complaisance qu'à Saint-Fargeau. Nous avons vu que dans la pratique, elle fermait les yeux. Cela simplifiait la vie. Dans les conversations pour son plaisir, elle aimait mieux d'autres sujets. Celui-là lui devenait insupportable.
« L'on me fait la guerre !»
dit-elle dans son portrait.
« Que les vers que j'aime le moins sont ceux qui sont passionnés, car je n'ai pas l'âme tendre. »
D'ailleurs, elle n'avait plus rien à dire sur l'amour. Elle venait de faire sa profession de foi dans une correspondance avec Madame de Motteville qui circulait manuscrite. En attendant mieux, et on lisait
« Son commerce est honteux, il est volage et inégal, sans foi et sans probité, C'est un impie. Il se moque du sacrement.
Le mariage ne raccommode rien. Il donne tout à l'homme.
Tirons-nous de l'esclavage,
s'écrivait mademoiselle.
Qu'il y ait un coin du monde où l'on puisse dire que les femmes sont maîtresses d'elles-mêmes.
On a le droit de mépriser l'amour et le mariage, à condition que ce ne soit pas seulement pour les autres. La jeunesse du Luxembourg savait à merveille, et c'est pourquoi elle protestait, que mademoiselle recherchait, avec une ardeur croissante, cet
esclavage
contre lequel, de vive voix ou par écrit, elle appelait son sexe à la révolte. Les personnes de son intimité la voyaient se forger de pures imaginations sous l'empire d'une idée qui tournait à l'obsession et croire ensuite que ces choses-là étaient réellement arrivées. Elle avait cru à des empressements significatifs de la part du petit monsieur qui allait en épouser une autre. Après la restauration des Stuarts, avril 1660, elle crut, le récit en est tout au long dans ses mémoires, que le roi Charles II, qu'elle avait refusé avec dédain lorsqu'il n'était qu'un pauvre prétendant, n'avait rien eu de plus pressé en montant sur le trône que de redemander sa main, et qu'elle avait répondu noblement
« Je ne le mérite pas, les ayant refusés pendant leur disgrâce. Ils auraient toujours cela sur le cœur, et je l'aurai sur le mien, et cela nous empêcherait d'être heureux. »
Cette belle réponse a été citée 100 fois. On sait aujourd'hui, par des documents anglais, que mademoiselle n'eut jamais lieu de la faire. Les avances, hélas, étaient venues de son côté et avaient été mal reçues.
« Je désire beaucoup le mariage de mademoiselle !»
écrivait Lady Derby à sa belle-sœur, Madame de la Trémouille, par qui passaient les insinuations. Mais le roi y a grande aversion à cause du mépris qu'elle lui a montré.
« J'ai parlé d'elle au marquis d'Ormond, mais j'ai rencontré peu d'encouragement. »
Autre lettre.
« J'ai fait te proposer mademoiselle et j'ai eu un peu d'espoir. Si le roi tient aux richesses, il ne peut pas en avoir plus qu'avec mademoiselle. Mais je crains qu'ayant été méprisé dans sa pauvreté, il ne soit peu disposé maintenant à envisager un pareil mariage. »
Charles II ne voulut rien écouter. Il avait gardé rancune à sa cousine. En revanche, il y a toute apparence qu'elle dit vrai lorsqu'elle raconte que le vieux duc Charles III de Lorraine l'avait demandé
à genoux.
Pour un jouvenceau de 18 ans, le prince Charles de Lorraine, son neveu qui devint dans la suite l'un des meilleurs généraux de l'Autriche. Il s'agissait bien entendu d'une combinaison politique. Par malheur, le prince Charles avait une autre idée, plus de son âge. Il était fort amoureux de la fille aînée de Madame Marguerite d'Orléans, qui le lui rendait de tout son cœur. La jeunesse du Luxembourg accusa la grande mademoiselle d'avoir fait manquer leur mariage par jalousie.
« L'affaire avait été fort avancée »,
rapporte cette commère d'abbé de Choisy. Mais la vieille mademoiselle avait tant parlé et chuchoté qu'elle avait tout rompu. Elle était au désespoir que ses sœurs cadettes, aigueuses au prix d'elle, se mariassent à sa barbe. Marguerite d'Orléans en fit un mariage de dépit qui tourna très mal et dont mademoiselle ne profita même pas. Par un retour singulier du jour où il avait dépendu d'elle de l'épouser. Elle n'avait plus eu que du mépris pour ce principicule
sans bastion.
Ses caprices impatientaient le roi, qui finit par prendre ses arrangements avec la Lorraine, sans plus s'occuper de sa cousine.
Louis XIV était dans les vieux principes monarchiques quant au mariage de princesses. Il n'y voyait que des questions politiques à régler entre gouvernements et où le sentiment n'avait pas à intervenir. L'idée que nous avons tous droit au bonheur n'était pas de son temps, et si quelques précurseurs la lui avaient suggérée, ils l'auraient sûrement condamnée, car elle fait passer les intérêts de l'individu avant ceux de la communauté, qui paraissaient bien autrement sacrés aux gens du XVIIe siècle. Louis XIV ne s'était pas cru le droit, pour lui-même, de n'accepter que les agréments de son métier de roi, puisqu'il s'était imposé une existence de travail acharné, lorsqu'il lui avait été si doux de ne rien faire. Dans son esprit, plus l'individu était haut placé, plus il était tenu de sacrifier ses propres convenances au bien général. Mademoiselle avait l'honneur d'être sa cousine Germaine. Il était parfaitement résolu à la marier ou ne la marier pas, à la donner indifféremment à un héros ou à un monstre, selon qu'il le jugerait utile pour le service du roi. C'était sa façon de reconnaître la parenté. Elle ne manquait pas de grandeur. Il n'entrait pas dans sa pensée que mademoiselle aurait l'audace de lui résister. On peut dire que sous ce rapport, ils étaient aussi incapables l'un que l'autre de se comprendre. Mademoiselle avait vécu trop longtemps dans l'opposition pour se faire à la notion d'un pouvoir royal absolument sans limite. Dans toutes circonstances imaginables, et vis-à-vis de toutes les personnes possibles. Louis XIV avait une foi trop profonde au droit divin des rois pour se refuser une seule des prérogatives qui peuvent en découler. Il représentait l'un et l'autre l'opinion de nombreux Français, mais mademoiselle représentait le courant décroissant, Louis XIV le courant grossissant. Ce dernier était venu au monde au bon moment pour profiter d'une doctrine, suivant une heureuse expression, semblait faite pour lui comme il semblait fait pour elle. À la suite de la réforme, la vieille théorie de l'origine divine du pouvoir avait bénéficié de ce que les peuples, en maintes pays ou en maintes provinces, s'étaient trouvés aussi intéressés que pouvaient l'être les souverains à supprimer l'autorité politique du pape en dehors de ses états et son ingérence dans les affaires des autres pays. C'est ainsi qu'en France, on remarque des théologiens calvinistes parmi les écrivains qui soutinrent dès le XVIe siècle que les princes reçoivent directement leur pouvoir de Dieu et de Dieu seul. La conséquence immédiate de la doctrine fut de rehausser encore l'éclat de la majesté royale. Les princes devinrent l'image de la divinité et même quelque chose de plus. Le premier discours officiel, quand on dit Louis XIV, il n'y avait pas 5 ans, le qualifia de « divinité visible ». 2 ans plus tard, le catéchisme royal lui expliquait qu'il était vice-dieu. 20 ans plus tard, Louis XIV était Dieu tout court. Et c'était Bossuet qui le lui déclarait du haut de la chair. Prêchant au Louvre le 2 avril 1662 et ayant à parler des devoirs des rois, Bossuet s'écria: ô Dieu de terre et de poussière, vous mourrez comme des hommes, n'importe, vous êtes des dieux encore, que vous mouriez. Quand un homme entend ces choses-là sans broncher, il est mûr pour en accepter toutes les conséquences. Bleroy avait écrit un anonyme. Sont les seigneurs absolus de tout ce qui respire l'air.
dans toute l'étendue de leur empire. Celui qui a donné des rois aux hommes a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite. Sa volonté est que quiconque est né sujet obéisse sans discernement.
Il est juste d'ajouter qu'il était arrivé à ses conclusions sous une poussée du sentiment public, devenu impatient de donner à la monarchie la force dont elle avait besoin pour remettre le pays en ordre. À la mort de Mazarin, la France était semblable à une grande maison dont les armoires, confiées à une ménagère négligente, n'ont pas été rangées depuis toute une génération. Une immense espérance traversa la France quand le pays vit son jeune monarque, aidé vigoureusement par Colbert, mettre le balai dans l'amas d'abus et d'iniquités qui portait le nom d'administration et se montrer résolu, en dépit des résistances et sans ménagement, pour les personnes à introduire de l'ordre et de la propreté morale dans les grands services publics. Cela ne se fit point sans des pleurs et des grincements de dents, sans des injustices aussi, témoigne Fouquet, coupable assurément, mais payant pour tant d'autres, dont Mazarin le premier. Mais cela se fit. Les finances d'abord, avec ce résultat que le peuple paya moins et que les impôts rapportèrent davantage. La justice ensuite, la réforme de la procédure, fut commencée en 1665 et les grands jours d'Auvergne s'ouvrirent la même année. L'armée, les soldats régulièrement payés, commirent moins de désordres et la noblesse apprit bon gré, malgré l'obéissance militaire. En même temps, l'industrie et le commerce marchaient d'un tel pas que dès 1668, les commandes affluaient à Paris du monde entier pour une foule d'articles que nous étions forcés, 10 ans plus tôt, de faire venir de l'étranger. C'est l'ambassadeur de Venise, Giustiniani, qui l'écrit à son gouvernement. La ferme volonté du maître avait remis le pays en marche. Louis XIV en fut confirmé dans sa haute opinion de la monarchie absolue. L'année même où Bossuet l'encourageait à se croire au-dessus de l'humanité ordinaire, il décida en toute sûreté de conscience de marier la grande mademoiselle à un véritable monstre, dans l'intérêt d'une combinaison politique qui lui tenait au cœur, car il est revenu à plusieurs reprises dans ses mémoires. Son beau-père, Philippe IV, menaçait l'indépendance du Portugal. Louis XIV faisait scrupule d'assister ouvertement le Portugal à cause du traité des Pyrénées. D'autre part, il estimait Dupri d'être plus honnête avec les Espagnols que les Espagnols ne l'étaient avec lui. Je ne pouvais pas douter qu'ils n'eussent violé les premiers et en mille sortes le traité des Pyrénées, et j'aurais cru manquer à ce que je dois à mes états, si, en l'observant plus scrupuleusement qu'eux, je leur laissais librement ruiner le Portugal, pour retomber ensuite sur moi, avec toute leur force. Il lui sembla qu'il conciliait, tout en aidant le Portugal sous main, et Turenne n'eut aucune répugnance à s'employer dans cette affaire. Cela s'appelait alors, et cela s'appelle encore quelquefois, faire de la politique. Telle étant la situation, Turenne vint une après-midi trouver Mademoiselle dans son cabinet. Le récit de leur entrevue nous a été conservé par la princesse et nous pouvons, cette fois, nous en fier à elle. Ses mémoires s'accordent avec les témoignages des contemporains.
C'était vers la fin de l'hiver de 1662. Turenne s'assit au coin du feu et entama des protestations de tendresse.
« Comme je suis brusque, de quoi est-il question ?» Il me répondit
« Je veux vous marier. »
Je l'interrompis et lui dis « Cela n'est pas facile. Je suis contente de ma condition.
Je veux vous faire reine, mais écoutez-moi. Laissez-moi tout dire et puis vous parlerez. Je veux vous faire reine de Portugal. »
« Fille, me récriai-je, je n'en veux point. » Il reprit, « Les filles de votre qualité n'ont point de volonté. Elle doit être celle du roi. »
Le monarque, qui faisait crier « Fille » à mademoiselle, s'appelait Alphonse VI et n'avait pas encore 20 ans. À 23, l'abbé de Saint-Romain, notre envoyé en Portugal, rapportait qu'il ne savait encore ni lire, ni écrire. En revanche,
il tirait les oreilles et arrachait les cheveux du premier venu.
Et c'était dans ses bons jours. Dans les mauvais, il frappait
des pieds, des mains et de l'épée tous ceux qui le fâchaient indifféremment.
Ses sujets n'osait plus sortir de nuit dans les rues, parce que l'un de ses divertissements était de
les charger brusquement
dans l'obscurité et d'essayer de les embrocher. Dans sa personne, Alphonse VI était un gros petit tonneau, à moitié paralysé d'une jambe,
goulu et malpropre,
presque toujours ivre, et vomissant alors,
après ce repas,
il portait 6 ou 7 habits les uns sur les autres, parmi lesquels
un jupon de 300 taffetas piqué à l'épreuve du pistolet,
sur la tête un béguin retombant jusqu'aux yeux, plusieurs calottes par-dessus ce béguin, dont une à oreille, et un bonnet à l'anglaise sur le tout.
Son corps,
poursuivait l'abbé,
sent naturellement mauvais, et il a toujours des ulcères, sous de grands doubles ou replis de peau, qui se font en divers endroits de sa personne. Et il serait impossible de souffrir toutes ces puanteurs ensemble, s'il ne se faisait laver le corps une fois par jour, en hiver, et 2 fois dans les autres saisons.
La peur l'obligeait à faire
toujours coucher 17 personnes dans sa chambre. Et, pour achever la cassolette, sa chaise, qui n'est pas une chaise inutile, demeure nuit et jour, dans la ruelle de son lit.
Turenne, cependant, s'efforçait de dorer la pilule. Il exposa à mademoiselle combien il serait utile au roi, et pour quelle raison d'avoir une princesse française sur le trône de Portugal. Il lui promit, connaissant son faible, qu'elle serait maîtresse absolue de
grandes et forces armées,
que le roi lui ferait passer sans bruit par petits paquets. Sans doute, Alphonse VI était paralytique.
Mais,
assurait Turenne,
« cela ne paraît pas quand il est habillé. Il traîne seulement un peu une jambe et cède malaisément du bras.
Tant mieux si son intelligence traînait aussi un peu.
On ne sait pas s'il a de l'esprit ou s'il n'en a point. C'est comme il faut les maris pour être heureuse. »
« Mais,
répliquait mademoiselle,
être la liaison d'une guerre éternelle entre la France et l'Espagne me paraît très laid. »
La situation serait encore pire pour elle si, comme elle en était convaincue, les 2 couronnes en arrivaient à se raccommoder. Le bel avenir
d'avoir un mari sot.
et paralytique que les Espagnols chasseraient et de venir en France demander l'aumône quand mon bien serait mangé et faire la reine dans quelque petite ville. Il fait bon être mademoiselle en France avec 500 000 livres de rente et rien à demander à la cour. Quand on est ainsi, on y demeure. Si l'on s'ennuie à la cour, l'on ira à la campagne, à ces maisons où l'on a une cour, où on fait bâtir, où l'on s'y divertit. Enfin, quand l'on est maîtresse de ses volontés, l'on est heureuse, car l'on fait ce que l'on veut.
Mais, reprenait Turenne, quand l'on est mademoiselle, avec tout ce que vous avez dit, on est sujette du roi. Il veut ce qu'il veut. Quand on ne le veut pas, il gronde. Il donne 1000 dégoûts à la cour. Il passe souvent plus loin. Il chasse les gens. Quand il se plaise à une maison, il les envoie à une autre. Il fait promener d'un bout du royaume à l'autre. Quelquefois, il met en prison dans sa propre maison, envoie dans un couvent, et après tout cela, il faut obéir. Qu'est-ce qu'il y a à répondre à cela ?
Que les gens comme vous ne menacent point ceux comme moi,
s'écria mademoiselle en colère.
Que je sais ce que j'ai à faire, que si le roi m'en disait autant, je verrais ce que j'aurais à lui répondre.
Elle lui défendit de lui reparler de cette affaire, et il se retira.
À 5 ou 6 jours de là, il m'en parla encore.
Puis ce furent des amis communs. L'inquiétude gagnait mademoiselle. Dans quelle mesure Turenne était-il le porte-parole du roi ? Elle écrivit à ce dernier pour provoquer une explication. Pas de réponse. Elle confia sa peine à la reine-mère qui se borna à ces mots.
Si le roi le veut, c'est une terrible pitié. Il est le maître pour moi. Je n'ai rien à dire là-dessus.
J'avais une haine épouvantable,
ajoute mademoiselle,
que le temps de forge fut venu afin de m'en aller.
La saison arrivée, il fallut prendre congé du roi. Elle voulut en avoir le cœur net.
Sire, si votre majesté voulait songer à mon établissement, voilà monsieur de Béziers qui passera à Turin. Il pourra négocier mon mariage avec monsieur de Savoie.
Je songerai à vous quand cela me conviendra et je vous marierai où il sera utile pour mon service.
D'un ton sec qui m'effraya fort sur cela, il me salua fort froidement et je m'en allai. Je pris mes os.
Elle eut l'imprudence de parler et d'écrire. Bussy Rabutin prétend même qu'elle
en avait écrit une lettre au roi d'Espagne pour s'en faire de fêter auprès de lui, laquelle on avait interceptée.
Mais cela est bien difficile à croire, quelque inconsidéré que fût parfois mademoiselle. De Forges, elle se rendit au château d'Eu, qu'elle avait acheté depuis peu. Ce fut là, le 15 octobre 1662, qu'elle reçut commandement du roi de s'en retourner à Saint-Fargeau.
Jusqu'à nouvel ordre,
elle eut sur sa route
des lettres de tout le monde.
Être exilée pour avoir refusé d'épouser Alphonse VI, le pays n'était pas encore fait à ses conséquences du nouveau régime. On sut bientôt que mademoiselle faisait venir de Paris
aiguilles, canevas et soie
en personne qui va avoir du temps devant soi. En somme, si les choses en restaient là, elle ne payait pas trop cher le plaisir de ne pas être reine de Portugal. C'était son avis et elle était de très bonne humeur.